Remercie. Je vais passer la parole à Josh et à Yves qui vont prendre le relais pour assurer la suite.
Voilà, écoutez, merci. Je vais prendre la suite. Juste pour apporter un complément d'information ou plus simplement de réflexion en matière d'éducation aux droits fondamentaux. Au niveau du CIFEDOP, si nous avons fait cette formation sur l'examen périodique universel, on pourrait se dire, mais tiens, finalement, il faudrait le laisser à d'autres organismes. UPR Info fait de la formation, le service international qu'on a vu aussi fait de la formation. Il nous paraissait d'abord assez clair que l'examen périodique universel ne devait pas être limité uniquement au travail technique de la rédaction des rapports et du lobby qui est fait à Genève. Ça, les formations de ce genre, elles sont justement données par UPR Info, elles sont données par d'autres organismes comme le service. Nous, on veut pas rentrer dans ce de façon détaillée sur ce point. Bien entendu, il faut s'assurer que les personnes au sein des coalitions ou au sein des associations qui travaillent sur ce sujet aient une bonne maîtrise du mécanisme, raison pour laquelle nous avons fait cette précession, parce que sinon on comprend pas de quoi on parle. Mais nous ne formons pas à agir ou à faire directement le lobbying. On l'avait fait un peu durant le premier cycle parce que justement tout le monde découvrait, les choses se mettaient en place et en gros dès qu'une personne découvrait le système et qu'elle avait envie d'entrer de l'utiliser, il était important qu'elle en ait les moyens. Mais maintenant que nous arrivons dans le deuxième cycle, on peut se permettre de travailler un petit peu plus dans l'objectif qui était le nôtre initialement en travaillant sur l'examen périodique universel, qui est justement de ne pas laisser cette question entre les mains des experts, puisqu'il y a un véritable débat public, et aussi parce qu'on voyait dans l'examen périodique universel un instrument tout à fait utile et qui arrivait à temps, enfin, non, qui arrivait pas à temps, qui arrivait enfin plutôt, dans le domaine de l'éducation aux droits de l'homme. Et je vais essayer un tout petit peu je vais faire ça un peu plus bref que ce que j'avais prévu pour laisser aussi Josh pouvoir faire sa propre présentation qui est un autre point mais qui est très important. Vous expliquer un tout petit peu la démarche que nous avions en tête. Tout d'abord, pourquoi est-ce que pour nous l'examen périodique universel marque aussi un tournant en matière d'éducation aux droits fondamentaux, d'éducation aux droits de l'homme? Une des difficultés que l'on a rencontrées au fil du temps, parce qu'il y a eu un grand engouement pour les droits de l'homme et ensuite pour l'éducation aux droits de l'homme. Et fut un temps où le CIFEDOP, nous faisions des sessions de formation avec plus d'une centaine de participants. C'était essentiellement, voire uniquement, des enseignants envoyés par les ministères de l'éducation dans une démarche tout à fait formelle, tout à fait officielle et professionnelle. Alors on s'est rendu compte qu'au fil des sessions, on a commencé à avoir de plus en plus de personnes qui venaient, envoyées par les ministères. C'était un peu la récompense pour les bons fonctionnaires, pour les enseignants méritants, ou des choses de ce genre-là. Donc le niveau de motivation commençait à passablement diminuer. Excusez-moi, de quelques enseignants extrêmement motivés, membres d'Amnesty, qui font des heures supplémentaires pour s'assurer qu'il y ait un travail droit de l'homme qui soit fait dans les écoles, et qui le font sur leur propre initiative, sans forcément avoir un soutien. On a commencé à passer à des gens qui étaient envoyés avec un per diem, avec tout un système. On s'est dit là, on commence à prendre une mauvaise route. L'éducation aux droits de l'homme commence gentiment à devenir un mécanisme officiel de diffusion pour les États de leurs propres paroles. Pourquoi pas d'ailleurs, c'est pas un problème. Si on fait de l'éducation civique et qu'on lit éducation aux droits de l'homme et éducation civique, il y a strictement aucun mal à cela, au contraire. Mais on commençait à rentrer dans un mécanisme, on va dire, un peu bureaucratique, et on s'est dit, on peut pas continuer comme ça, nous commençons à quitter ce qui est la véritable motivation et ce qui est la nature de l'éducation aux droits de l'homme, et donc il faut trouver et chercher d'autres pistes, ce que l'on faisait. Et un autre problème que nous avions rencontré en matière d'éducation aux droits de l'homme, c'est le rapport aux institutions et aux droits. Vous le savez mieux que moi, dans la formation des enseignants en général, il y a peu, voire pas du tout, de formation juridique. C'est d'ailleurs de loin pas la seule profession qui a ce problème, qui est confrontée à ce problème. Plein d'autres professions ont ces difficultés. Et au moment où on doit commencer à travailler avec les questions juridiques, on est tout à fait mal outillé, on les comprend pas. On lit les choses comme on lit le français, ce qui est assez logique, et du coup on comprend pas quelle est la portée juridique de ce que l'on vient de lire, et donc on est tout à fait handicapé. Donc on a plutôt tendance à vouloir s'en éloigner, et le débat continue, mais je pense qu'il tend maintenant à diminuer dans les milieux d'éducation aux droits de l'homme, à savoir s'il faut avoir ou pas une approche juridique ou est-ce qu'il faut avoir une approche comportementale. Et nous avions même eu des situations qui nous ont fait dresser les cheveux sur la tête, voire plus, quand on a commencé à voir, par exemple, la Déclaration universelle des droits de l'homme être utilisée carrément comme étant qu'un copier-coller pour en faire un règlement de classe. Et après, vous avez des punitions au nom des droits de l'homme. Donc, on voit vraiment la portée pédagogique d'une démarche de ce genre. Donc, on a commencé à être un peu effrayé. Et ça, c'est justement, c'est par une mauvaise utilisation des institutions, une mauvaise utilisation des instruments juridiques. Et on a eu, je me souviens, de débats alors absolument très, très chauds dans certaines des sessions où des enseignants disaient « Mais nous, le droit, ce n'est pas notre domaine et les droits de l'homme n'ont rien à faire avec la notion de droit. » En oubliant que le premier mot, c'est « droit hein. ». Donc voilà, il fallait sortir un peu de ça, et l'examen périodique universel nous permet, nous offre vraiment des possibilités assez exceptionnelles. Je pense qu'on n'aurait pas rêvé à l'époque d'avoir une possibilité d'entrer en matière. Ça nous donne pas l'ensemble de l'éducation, faut bien comprendre ça, hein, mais ça nous donne une porte d'entrée en matière d'éducation aux droits fondamentaux qui est excellente. Première des choses, c'est évidemment ce dont on a parlé ces derniers jours, qui est la question du débat public. Il y a d'abord une discussion, un débat public. Je l'ai dit, je peux le répéter, là je voulais pas avoir des petits problèmes électroniques, donc j'ai pas été chercher des petites séquences qu'on peut prendre, mais vous pouvez les prendre sur le net, ou les faire passer en direct. Donc il y a la possibilité de visualiser à travers le site du Haut Commissariat les débats qui ont eu lieu sur les États qui nous intéressent. Donc on peut aller voir, on peut visionner tout le débat. Justement, c'est un débat que j'avais hier encore, parce qu'on sait que la salle va être pleine lundi pour la Suisse. Je sais pas si je serai dans la salle. De toute façon, moi j'ai rien à y dire et rien à y faire. Donc il n'est pas impossible que je suive d'ailleurs. On est en train de se demander si certains n'allaient pas aller à la cafétéria. On branche notre ordinateur et on suit le débat depuis en bas. Parce qu'après, ce qui est intéressant, c'est d'être là au moment où les gens sortent. Là, il y a des gens qu'on veut voir, avec qui on veut parler, une fois qu'ils sortiront de la salle. Donc on veut être sur place. Mais on le fera peut-être depuis la cafétéria en bas, en regardant simplement ce qui se passe via le net. Ça a exactement les mêmes informations, on voit les mêmes choses, on entend les mêmes choses. C'est comme si on était dans la salle. Ça, c'est quelque chose que l'on peut utiliser en classe, simplement pour attirer l'attention, pour montrer, écoutez, voilà, il y a un événement, il y a quelque chose qui concerne notre société, il y a quelque chose qui concerne notre pays, voilà ce qui se passe. C'est un point d'entrée, c'est un point de départ. Évidemment, il faut le choisir avec subtilité, parce qu'on peut très bien avoir un État qui dit quelque chose de très stupide, et puis évidemment tout le monde dit « Ah, ils sont bêtes, c'est stupide, c'est bien ce qu'on pense, l'ONU c'est nul, ça sert à rien », puis vous pouvez arrêter votre leçon là, parce que tout le monde dit « Bon, là, vous avez fermé les oreilles et l'attention de tout le monde ». Donc évidemment, il y a une manière de l'utiliser avec intelligence, mais c'est une ressource en tant que telle qui permet de dire « Ah, mais tiens, il se passe quelque chose ». Donc du coup, les droits fondamentaux, c'est pas une question abstraite, philosophique, on sait pas à quoi ça et tout, on est tout de suite interpellé. Puis quand on entend son pays être interpellé, on se sent toujours interpellé. Moi, je me sens quand même toujours interpellé quand on s'adresse quelque chose à la Suisse, même si je pense que c'est tout à fait juste d'ailleurs. Je me sens concerné directement. Et ça, on s'est rendu compte au fil du temps, et on le voyait arriver d'ailleurs très vite. Hein. Et pour ceux qui ont travaillé, par exemple, on aurait pu en parler avec Salim, par exemple, sur les procédures des comités conventionnels, la mobilisation sur les comités conventionnels, elle est d'une certaine manière plus difficile. Elle est plus facile pour les milieux directement concernés, hein, pour les associations qui travaillent sur telle affaire, le fait de pouvoir aller discuter avec les experts du comité, ça, ça les motive très fort. Parce que, voilà, on a envie d'avoir cette discussion, mais quand on n'est pas directement dans le sujet, ben là, bon, oui, pourquoi pas ça. Mais l'examen périodique universel, ça, par contre, hop, ça déclenche un véritable intérêt. Donc, on peut travailler sur cet intérêt et on peut montrer qu'il se passe quelque chose, que nous ne sommes pas dans quelque chose de très abstrait. Ensuite, c'est directement posé sur ce qui est le fond de la question des droits fondamentaux. C'est pour ça que les droits fondamentaux, c'est pas l'éducation morale, c'est pas l'éducation philosophique, c'est pas l'éducation à la paix. Donc, il y a différentes processus d'éducation sur des approches différentes. Et c'était toujours notre bagarre de dire non, l'éducation aux droits de l'homme, elle a quelque chose de spécifique, elle a toujours un rapport avec les institutions. C'est quelque chose de typique pour les institutions. C'est d'ailleurs une de ses difficultés, parce que l'école est elle-même une institution. Donc, ça sous-entend aussi, c'est ce que Ramdam a déjà dit plusieurs fois, ça touche aussi la manière dont on gère soi-même l'institution scolaire. Alors aussi, du coup, ça fait des fois des résistances à l'intérieur de l'école, parce que certains enseignants ne veulent pas qu'on pose cette question-là. Donc ça, vous connaissez ce genre de difficultés qu'on peut avoir dans les écoles, c'est assez classique. Mais c'est logique. C'est classique, mais c'est logique. C'est logique parce que les droits fondamentaux, c'est pas quelque chose qui permet de parler d'autre chose. Non, on parle de sa situation et on parle des institutions. Et on le voit tout de suite avec justement l'examen périodique universel, puisque la base même, eh bien, c'est les obligations qu'a l'État vis-à-vis de ses citoyens. Et donc, ce qui est intéressant, le deuxième élément, après le fait qu'il y a un intérêt public, il y a un débat, il y a quelque chose sur lequel on peut se motiver, on pose la question de façon relativement correcte, parce qu'on pose la question de l'État, on pose la question des libertés par rapport à des pouvoirs. Et non pas, est-ce que je suis gentil avec ma petite camarade qui s'assied à côté de moi et qui vient de me piquer ma gomme ? Ce qui ne veut pas dire qu'on ne doit pas traiter aussi de ce genre de questions, mais ça ne relève pas forcément de l'éducation aux droits de l'homme. Et si ça en relève, il faut qu'on explique comment. Puis pour les tout petits, c'est très compliqué à ce qu'ils comprennent ça. Donc à mon avis, c'est pas pertinent comme entrée en matière d'éducation sur les droits fondamentaux. Alors, une fois qu'on a dit ça, oui, bon, c'est bien, on a pu montrer un peu les éléments par le net, mais par les petites séquences vidéo, par exemple. Mais enfin, bon, une fois qu'on a fait ça, comment est-ce qu'on peut continuer ? Alors, je crois qu'il faut bien voir que les rapports qui sont produits, les documents qui sont produits, que vous pouvez trouver gratuitement sur le site du Haut Commissariat, ce sont aussi des éléments d'information à utiliser dans le cadre de cours que l'on peut faire. Et là, je vais vous donner deux ou trois petites illustrations telles que moi je les vois. On peut ensuite avoir une petite discussion. Là, on n'a malheureusement pas beaucoup de temps. Après, vous voyez vous-même comment vous voulez les utiliser, les poursuivre, par rapport aussi au contexte de votre propre État. Ici, évidemment, comme vous pouvez le deviner, je travaille sur la Suisse comme exemple. Si on prend le rapport, enfin la compilation qui est faite des autres informations qui sont arrivées, donc en gros les informations venant des ONG et tout. Déjà, premier élément, quand on lit le document, d'ailleurs là-bas, ça je suis pas sur le bon. Non, là je suis, excusez-moi, sur la compilation, alors on va commencer par ça. Si je prends la compilation qui est faite par le Haut Commissariat, par le Haut Commissariat de l'ensemble de ce que l'État, de la situation de l'État par rapport aux droits fondamentaux, on a, si je remonte dans le document, voilà, on a les renseignements d'ordre général et le cadre. Alors on se dit, oui, bon, c'est un peu fastidieux à lire, c'est un tableau qui est intéressant, mais ça va surtout concerner les juristes. Mais en fait, j'avais prépositionné ceci sur un élément qui est tout à fait intéressant ici. Là, vous avez, et ça n'existe dans aucun autre document en Suisse, le tableau des procédures de plainte et d'enquête que les personnes vivantes en Suisse, pas simplement les citoyens suisses, mais les personnes vivantes en Suisse, peuvent utiliser. Et vous avez l'ensemble des différents comités. Alors bon, il faut un peu traduire parce que comme ça, on parle des mécanismes en fonction de la convention et non pas en fonction du comité. C'est un tout petit peu dommage, mais quand même, chaque fois là, vous avez un comité auquel vous pouvez adresser une plainte. C'est quand même déjà en tant que tel une information qu'on donne aux personnes que l'on forme de façon directe. Le tableau, il est déjà fait. Vous n'avez pas besoin, vous, d'essayer de le faire, d'aller le chercher dans des manuels de droit parce qu'en fait, vous n'y arriverez pas parce que c'est éparpillé dans des documents tout à fait différents si vous voulez le faire. Vous l'avez dans ce document des Nations Unies et ce sera remis à jour parce qu'évidemment, vous aurez ensuite d'autres ratifications. La situation peut évoluer. Dans 4 ans, c'est sûr, le document sera remis à jour. Donc, vous avez au moins là, déjà, un premier document que vous pouvez tout de suite utiliser. Mais quand on dit, oui, mais ces mécanismes onusiens, à quoi est-ce que ça sert ? Pourquoi ? Ben là, on a directement un premier élément de réponse. Puis, on peut aller plus loin parce que on voit les autres instruments qui sont utilisés par la Suisse. Puis, ensuite, on a, par exemple, des éléments d'informations sur le comité sur la discrimination raciale, qu'est-ce qu'il a pu dire à la Suisse. Donc on a toute une série d'éléments qui vont ressortir comme ça quand on veut parler ensuite par exemple des questions alors il y a la manière dont on coopère, bon ça peut-être ça va être moins intéressant du point de vue pédagogique, encore que ça peut l'être, hein. Mais si on descend un peu plus loin, voilà, dans les respects des dispositions, comment est-ce que la Suisse respecte ses engagements. On a par exemple, sur les questions économiques et sociales, puisque c'est un des problèmes qu'on a assez facilement chez nous, on va y arriver, on va à l'éducation, migrants, bon on a sur les migrants par exemple ici, ce qui a été dit par le Haut Commissariat aux réfugiés, ce qui est dit aussi par certains comités, comme le comité contre la torture. Là on voit par exemple clairement que le comité contre la torture a fait des remarques par rapport à la manière dont la Suisse traite des demandeurs d'asile. Et ça, c'est des informations que vous pouvez donner en tant qu'enseignant. C'est une information objective. Et vous pouvez montrer que c'est une information objective, que c'est pas une opinion que vous avez. Et ça, c'est une question qui est très importante, parce qu'on est très vite accusé en tant qu'enseignant de dire, ouais, mais là, monsieur, vous faites, ou madame, vous faites, enfin, monsieur, si c'était moi, vous faites de la politique. Non, là, c'est une information objective. Le comité contre la torture, voilà. Puis alors après, on dit oui, mais ça, l'ONU, pourquoi est-ce qu'il dit des choses pareilles? C'est quand même pas normal. Ils ont qu'à, je vois pas très bien pourquoi le Bénin se permettrait de dire des choses à la Suisse, etc., etc. Vous prenez le rapport. Je fais exprès de prendre le Bénin au passage. On m'en voudra pas. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que si vous prenez le rapport national lui-même, ici au paragraphe 7, clairement, la Suisse reconnaît l'importance de donner aux individus la possibilité de recourir à des mécanismes de communication. Puis là, vous avez dans le rapport suisse, ici, les éléments qui disent clairement, d'abord, voilà, il y a eu tant d'arrêts, 21 arrêts de 2008 à 2011 de la Cour européenne des droits de l'homme. Et puis on parle aussi des comités, on dit bien, la Suisse reconnaît également les mécanismes de plainte individuelle des comités contre la torture, etc., etc. Ça, c'est la réponse officielle du gouvernement suisse. Donc, de nouveau, vous, en tant qu'enseignant, vous faites là un travail purement objectif. Et ces éléments, vous les avez dans ces rapports en tant que tels. Alors, vous dites, oui, mais là, on est peut-être aussi en train de faire de la propagande, et puis finalement, après, on va regarder le cadre institutionnel, etc., etc. Alors là, c'est toute la manière dont la Suisse elle-même dit comment elle pratique les choses. Si on veut montrer aussi, justement, avoir un débat un peu plus critique, eh bien, évidemment, on peut utiliser le résumé qui est fait par les Nations Unies. Puis ce qui est intéressant, alors ça, c'est un élément d'analyse, indépendamment même de la pédagogie elle-même qu'on peut utiliser, mais... C'est un élément qui est intéressant. Il faut toujours commencer le rapport des Nations Unies par la note qui est à la fin, hein, comme toujours. En général, il faut d'abord lire la table des matières, le quatrième de couverture, etc., etc. Hein, c'est faux. On commence pas un livre par la première page. Ben là, c'est la même chose. Ce qui est d'abord intéressant, c'est de regarder la note, parce que ici, on voit l'ensemble des contributions. Alors malheureusement, c'est pas génial, parce que la contribution numéro 3, on dit simplement coalition suisse pour les PU. En fait, vous avez 40 ONG derrière. Donc, avant, ils mettaient plus facilement toutes les ONG qui étaient impliquées. C'est un peu dommage, là. Mais on voit bien l'ensemble des éléments. Et puis alors, de toute façon, si on voulait... Mais là, j'ai un petit problème. Comme on a bougé un peu tout ça, je vais pas réussir à retrouver... Bon, ben je voulais vous montrer la page, ben je l'ai ici, mais j'arrive plus à la retrouver sur mon bureau. Vous avez la page web qui montre l'ensemble des contributions. Donc en fait, tous ces éléments-là, vous pouvez y accéder directement. C'est extrêmement facile. Hein. Donc vous avez directement accès à la fameuse la contribution numéro 3, contribution conjointe numéro 3, avec la coalition des ONG, vous y avez. Alors là, c'est en anglais, mais en fait, vous avez aussi le texte en français, vous l'avez en arabe, vous l'avez en russe, bon, suivant où vous avez à intervenir. Puis alors après, ben on peut voir, si on parlait de l'asile tout à l'heure, hein, là, on peut voir exactement que, par exemple, non seulement les différentes contributions qui sont faites sur les problèmes d'asile que j'ai mentionné tout à l'heure, on voit comment est-ce que certaines ONG suisses elles-mêmes critiquent. Alors ça, ben, mais de nouveau, on fait de l'information civique. Voilà comment est-ce que des organisations suisses critiquent. Mais il n'y a pas que des organisations suisses. Le commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe a lui aussi fait une enquête sur la Suisse à ce sujet, et voilà ce qui ressort. Puis alors après, vous avez des éléments plus précis, comme Terre des Femmes, qui elle aussi apporte un certain nombre d'informations. Donc, ce que je voulais simplement souligner ici, parce que j'ai vu que les documents sont très souvent un peu laissés comme étant des ressources juridiques, des ressources d'information générale et tout, et on n'y recourt pas comme étant des ressources d'information pour le travail pédagogique. Or, en fait, ces trois rapports sont des éléments tout à fait intéressants pour un travail pédagogique, et ils simplifient le travail de l'enseignant. C'est pour ça que j'ai voulu vous le montrer ici, faire ce petit exemple, parce que vous avez tout de suite toute une série d'éléments qui se répondent. Vous avez l'information officielle de l'État, vous avez les informations objectives, juridiques, issues des Nations Unies, et vous avez aussi les éléments critiques qui peuvent arriver de la société civile. Donc vous pouvez faire un travail d'information assez facilement, en montrant les documents. Alors évidemment, si vous êtes à l'école primaire, c'est un peu, là, c'est moins pertinent, mais dès que vous travaillez au niveau du secondaire, c'est tout à fait possible. Vous pouvez avoir ces rapports, vous pouvez faire des copier-coller, vous pouvez renvoyer, vous pouvez leur même faire une petite recherche sur Internet ou autre, suivant les accès que vous avez. Mais donc, il y a une capacité de faire un travail directement auprès de ces sources. Et donc, il y a toute une série d'éléments que l'on peut mobiliser. Et je crois que m'entrer en matière de droits fondamentaux, puis alors après, évidemment, on peut aller plus loin. C'est quoi le droit de l'asile? C'est quoi le droit des migrants? Pourquoi est-ce qu'il y a du droit des migrants? Etc., etc. Donc on peut approfondir. Hein. Je dis bien ça, c'est une entrée en matière. Mais simplement, c'est l'examen périodique universel, du point de vue pédagogique, offre des ressources pour apporter, pour ouvrir le débat, pour initier la discussion pédagogique en classe, qui sont, à mon avis, assez exceptionnelles, étaient quelque chose dont nous ne disposions pas auparavant. Et c'est à cet égard que nous trouvons que l'examen périodique universel offre des ressources pédagogiques pour l'éducation aux droits de l'homme et offre une orientation et une approche qu'il faut désormais suivre, parce que ça nous paraît être quelque chose de tout à fait important pour relancer et renforcer la qualité du travail fait en matière d'éducation aux droits de l'homme. Voilà, c'était la petite démonstration que je voulais faire. Je ne sais pas si vous vouliez juste réagir sur certains points avant qu'on passe ensuite la parole à Josh.
I have a question in relation to when you tell us this, and I really appreciate it, and there is absolutely no doubt that I really also believe in the International Declaration of Human Rights. But I have had experiences in my country, in Denmark, where the coalition in the government was very informed by the very right-wing government, and they basically dispute the fact that Denmark should stay, you know, tied to the International Declaration of Human Rights, which is kind of the core foundation here. And they obviously do that vis-a-vis certain problematics, or in their eyes, problematics with immigrations, etc. What is your experience with this? If you experience this, could happen in a school class where kids are basically hearing this at home from maybe nationalistic parents saying that, well, you know, why should we even, you know, abide to this international declaration? Because what you're saying right now, it takes as a premise that we all agree, and that it is the foundation, and that it is there, and it cannot be changed. But that's not what the kids are hearing at, you know, the dinner tables at the moment in some of these very nationalistic countries. So it's a question to you, and it's a challenging one, okay?
Oui, merci beaucoup. La question, alors, est entièrement pertinente, et on est tous confrontés effectivement à ce genre de choses. Alors, il y a plusieurs éléments de réponse. Là, je vais donner la réponse qu'on peut faire dans le contexte suisse. Évidemment, après, il faudra faire les adaptations dans le contexte danois. D'abord, la première chose, c'est qu'on n'adhère pas à la Déclaration universelle des droits de l'homme, et c'est presque du jus cogens, c'est-à-dire que c'est considéré aujourd'hui comme étant la base fondamentale de l'ensemble des obligations qu'ont tous les États. Hein. Vouloir remettre en cause la Déclaration universelle en tant que telle. Dans ce cas, on a aboli les Nations Unies, on a aboli la coopération internationale, etc., etc. Donc, il faut bien comprendre que la déclaration en tant que telle, et c'est pour ça que elle est à la base, c'est une des bases juridiques de l'examen périodique universel, c'est que là, il s'agit pas de ratifier ou autre. Elle s'impose telle quelle, comme la déclaration des Nations Unies, la charte des Nations Unies s'impose aussi. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une fois qu'on remet en cause la déclaration, je dis bien la déclaration, hein, l'instrument de la déclaration, celle de 1948, dans ce cas, on remet en cause toute notion même de droits fondamentaux, et en gros, et vous avez raison, le danger il est là, on sort de la démocratie. C'est l'argument aujourd'hui du Premier ministre hongrois. Il faut savoir qu'en Europe, on a un Premier ministre élu qui dit clairement, aujourd'hui, la démocratie, elle est arrivée à son terme, on doit penser à autre chose. Maintenant, quand on regarde ce à quoi il pense, c'est retour à l'amiral Horthy, c'est-à-dire un système pré-fasciste ou pré-nazi. Très clair. Donc là, c'est limpide. Il y a un Premier ministre. Bon, il y a de fortes chances qu'il ne passe pas la prochaine élection, ce serait très bien. Mais c'est vrai, on est confronté à ce genre de discours qui ressurgit. Il est évident que si on ne croit pas à l'égalité fondamentale, l'égalité juridique entre tous les êtres humains, il n'y a pas de débat possible. L'ensemble du débat en matière de droits fondamentaux, et je viens de sortir de plusieurs années ici à Genève, on a eu tout un débat juridique puisqu'on a refait la Constitution, et on a eu des confrontations sur qu'est-ce qu'étaient les droits fondamentaux. On a eu un débat, mais il était entendu, y compris d'ailleurs pour l'extrême droite, ce qui était intéressant puisqu'on avait un parti d'extrême droite important, que quand même on reconnaissait l'égalité entre personnes. Alors après, c'était comment est-ce qu'on l'intègre par rapport à la nationalité ou des choses de ce genre-là. La notion d'égalité n'a formellement pas été remise en cause, même si je reste convaincu qu'un certain nombre de ces personnes remettent en cause l'égalité, considèrent que la femme est inférieure et que les personnes de couleur sont inférieures, mais ils n'osent plus le dire. Ils n'osent toujours pas le dire. Donc, le débat politique n'a pas ouvert cette porte chez nous. Ce qui a par contre, c'est pour ça que j'insiste sur la question de la déclaration, parce qu'en Suisse, ce qu'on a eu, c'est qu'on a eu une demande de l'extrême droite que l'on sorte de la Convention européenne des droits de l'homme, pour ensuite y réadhérer en y intégrant des réserves. Parce que comme on peut faire des réserves que quand on adhère à un nouveau instrument, on peut pas par la suite dire « Ah bah finalement j'ai oublié de vous dire, mais ça aussi on veut pas le faire, ça aussi on veut pas le faire ». Non, on doit faire les réserves uniquement au moment où on adhère. Donc leur truc c'était de dire « On sort de la Convention européenne, pas de la déclaration hein, ». Parce qu'ils savaient très bien ce qu'ils faisaient, ils ont leur propre juriste. Donc la déclaration on peut pas y toucher. Mais on sortirait de la Convention européenne et ensuite on y réadhérerait en mettant des réserves. Bon, il est évident que le jour où on fait ça, autant dire on sort du Conseil de l'Europe. Et là la Suisse elle s'isole totalement. Et je crois qu'il y a une prise de conscience progressive. Il y a deux choses, pour terminer ma réponse. Un, c'est qu'on se rend compte que, surtout pour un pays qui est comme la Suisse, qui est à ce point intégré dans les réseaux internationaux, au bout d'un moment, à force de jouer avec ceci, va falloir savoir ce qu'on veut faire. Si on veut se replier, ben, il y a plein de ressources, ou je sais pas, nous-mêmes, on produit 22% de notre alimentation, enfin bon. Donc, alors, qu'est-ce qu'on fait, hein? Il y aura même, alors, le jour où on dit, oui, il y a trop de personnes en Suisse. C'est pas simplement les étrangers qu'il faut faire sortir, mais c'est aussi à peu près la moitié de la population suisse, si on veut travailler uniquement et vivre de notre champ, de notre vache, de notre pré carré, etc., etc. Donc au bout d'un moment, l'argument, il ne tient pas la route. Puis ensuite, il y a un autre argument qui est important, et pourquoi est-ce qu'il touche pas à la question de l'égalité des droits? C'est qu'il n'y a pas, fort heureusement pour l'instant, et j'espère qu'il n'y en aura pas, de philosophie de rechange qui prenne, parce que la notion, mais moi en tant que tel, j'ai des droits, moi j'ai des droits par rapport à l'État qui existe, ça c'est quelque chose qui est revendiqué par tout le monde, simplement on n'a pas toujours exactement les mêmes types de revendications. Mais le fait que même moi, en tant que simple citoyenne ou simple citoyen, on peut pas me faire n'importe quoi, ça c'est très ancré, et c'est alors totalement partagé, y compris chez nous, dans notre extrême droite. Donc, le débat trouve ses limites, et pour l'avoir expérimenté ces dernières années, très concrètement, il se trouve ses limites à ce niveau-là. C'est pour ça que les notions ça que cette question de déclaration par rapport à la convention, c'est intéressant, de le préciser, par exemple, en classe, je dis bien au niveau secondaire, hein, mais de l'introduire, hein, parce qu'on se rend compte que non, il y a des valeurs, effectivement, auxquelles on a tous adhéré. Puis après, il y a les instruments juridiques. Puis là, il peut y avoir des débats et des discussions, mais on peut pas faire n'importe quoi avec les instruments juridiques. Et la notion d'état de droit, elle est encore très ancrée, mais à mon avis, elle doit être aussi ancrée au Danemark qu'en Suisse. Donc la notion d'état de droit, là, on peut tout à fait l'utiliser de façon forte. Il est évident que pour certains de nos amis qui sont pas dans une situation où il y a un état de droit fort, le débat, il est différent. Le débat, il est de faire arriver un véritable état de droit et quelles sont les démarches qu'on devrait faire dans son pays pour arriver à un état de droit. Alors là, par contre, on est dans deux types de débats différents. Excusez-moi, ma réponse était un peu trop longue, mais parce que je pense que la question était absolument pertinente. Et oui, c'est exactement un des problèmes auxquels on est confronté.
Oui, je vous remercie. Je suis enseignant de formation. Donc, c'est Abdoulaye du Sénégal. Et je suis enseignant de formation et vous nous avez donné effectivement des outils pour mettre les instruments souvent juridiques à l'attention des enseignants que nous sommes. Et effectivement, certains éducateurs ou enseignants sont rébarbatifs par rapport à ces instruments-là. Souvent, ils ont peur de se lancer parce qu'ils disent un langage juridique qu'ils ne comprennent pas. Et souvent, ils ratent carrément l'apprentissage qu'ils devraient donner donc aux apprenants. Et je pense que ce que vous avez dit, c'est important. Qu'à la base de ces textes-là, on peut effectivement puiser des éléments forts pour faire notre apprentissage. Mais je pense aussi à un autre volet que les enseignants devaient aussi utiliser. C'est ce qu'on appelle peut-être, je ne sais pas, la coopération interdisciplinaire. C'est-à-dire utiliser aussi les autres compétences au niveau de l'école, voir ceux qui sont habitués à ces types d'instruments et aussi même peut-être faire un appel aussi aux juristes pour venir aider un peu l'enseignant à mieux maîtriser les concepts et souvent aussi peut-être les phrases qui sont un peu difficiles à comprendre pour le commun des mortels. Et il me semble que l'autre élément important, souvent ce qui nous, en tout cas en Afrique, le grand problème c'est que souvent dans les crédits horaires que nous n'avons pas le temps d'aller plus loin dans l'enseignement, nous sommes un peu enfermés et il est bon donc que nous puissions aussi créer des clubs au niveau de l'espace scolaire, des clubs pour renforcer un peu l'éducation aux droits humains. Je pense que c'est des éléments qui peuvent nous être d'un grand apport pour amener les élèves à participer effectivement à la gestion de l'école. Donc c'est toute une contribution que je voulais faire. Merci.
Merci beaucoup, je suis entièrement d'accord avec cette contribution. Un dernier mot de clôture et de fin, un élément que j'ai oublié de dire aussi, ce qui est intéressant avec le rapport national, c'est que vous avez aussi dedans indiqué les éléments nationaux de protection de ces différents droits. Et donc avec le rapport national, on sort du piège dans lequel on est souvent de dire « oui, mais ça c'est uniquement du droit international, pourquoi ça vient de l'extérieur, il faut regarder uniquement ce que nous on a comme nos propres droits ». Vous l'avez dans les rapports nationaux, c'est justement des éléments qui est intéressant, c'est que les États vont dire « mais nous on a ci, on a ça, on a ça ». Donc vous avez facilement cette entrée en matière en disant « voilà, je prends cet exemple ici en termes de droits de la femme ici en Suisse ». Je pense que l'égalité homme-femme est de loin pas encore totalement réalisée en Suisse, donc on a encore un chemin à faire. Hein. Mais on voit bien ici les éléments des rapports, mais aussi le fait qu'on a un groupe interdépartemental qui travaille là-dessus, qu'on a un bureau fédéral de l'égalité entre les hommes et les femmes. Tout ça, ce sont des éléments que vous allez trouver dans le rapport. Donc vous avez aussi toute cette dimension propre, nationale, qui se trouve dans le rapport. Donc de nouveau, je termine en disant à quel point ces trois instruments, ces trois rapports de l'examen périodique universel sont des sources, sont véritablement des instruments. Ils ne sont pas faits là uniquement pour les juristes, ils ne sont pas faits là uniquement pour Genève et la discussion à Genève. C'est véritablement du matériel à utiliser chez soi dans le travail pédagogique que l'on peut faire. Je vous remercie de votre attention et je passe la parole à Josh pour un autre élément toujours lié à l'examen périodique universel, mais aussi qui est tout à fait important pour notre travail. Josh ?